Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Alors on parle beaucoup cette année du naufrage du Titanic, mais trois ans plus tard, en mai 1915, un autre géant des mers appartenant à la même compagnie faisait naufrage au large des côtes britanniques. Et Franck Ferrand nous raconte aujourd'hui sur Europe 1 cette catastrophe. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Dans le cas du Lusitania, c'est le nom de ce grand paquebot, la cause du naufrage n'était pas un iceberg mais une torpille allemande. Du reste, le torpillage du Lusitania a joué un rôle crucial dans l'histoire de la Première Guerre mondiale.
D'ailleurs, vous me disiez tout à l'heure que ce dossier est plein de points d'interrogation.
Oui, en effet, il y a trop de coïncidences pour qu'on ne s'interroge pas. L'affaire du Lusitania est une énigme historique. Eh bien, c'est elle que nous allons tenter d'élucider cet après-midi.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Nous sommes à New York, le 1er mai 1915, donc au cœur de la Première Guerre mondiale. Il est presque midi. Il y a un petit vent frais sur le quai 54 à hauteur de la 42e rue. Or, ce que nous avons sous les yeux et qui nous écrase de sa silhouette fantastique, c'est le roi des océans, le lévrier des mers, le fleuron imbattable de la marine marchande britannique. J'ai nommé Sa Majesté Lusitania. À tout seigneur, tout honneur, Lusitania est alors le paquebot le plus rapide du monde. Il est vrai que depuis le début de la guerre, on a condamné 4 de ses chaudières sur 16 pour des raisons d'économie évidentes, ce qui fait qu'il file déjà nettement moins vite. Ça pourrait paraître secondaire ce que je vous dis là, mais en vérité, c'est primordial. Vous allez bientôt comprendre pourquoi. Pour le moment, tout va bien. À midi pile, on a largué les amarres et les 10 remorqueurs nécessaires à la manœuvre ont décollé le monstre du quai. À bord, quelques 1959 personnes, en comptant l'équipage. 1959 personnes qui envoient des baisers aux personnes qui sont venues leur dire au revoir, vous savez, ou plutôt adieu. La plupart des passagers sont des Britanniques, mais il y a aussi pas mal de Canadiens et quelques 160 Américains. C'est très important, ça. Je vous rappelle que les Américains, pour le moment, sont neutres dans cette guerre qu'ils regardent comme une affaire européenne. Alors, je ne vous cache pas que sur le pont des premières classes, on est plutôt tendu. Et si tous ces gens sont inquiets, c'est qu'ils sont mieux renseignés que d'autres et qu'ils ont tous eu connaissance d'un entrefilet discret, mais pas sympathique du tout, paru dans un journal américain. Cet encart, publié à l'initiative de la communauté allemande de New York, je vous le lis, « Avis aux voyageurs qui ont l'intention de traverser l'Atlantique, il est rappelé que les navires battant pavillon de la Grande-Bretagne ou de ses alliés s'exposent à être détruits dans les eaux qui entourent la Grande-Bretagne. Les voyageurs qui empruntent ces navires le font à leurs risques et périls et c'est signé Ambassade impériale allemande, Washington, 22 avril 1915. » Vous admettrez que comme publicité, on a vu mieux. Le représentant de la Cunard à New York s'est même senti obligé de convoquer la presse pour essayer de calmer le jeu et de rassurer tout le monde. Maintenant, c'est l'heure du départ. Lusitania salue d'un grand coup de corne la statue de la liberté et puis il met le cap sur l'océan. En temps normal, il lui faudrait 5 jours pour traverser l'Atlantique. Mais du fait des mesures d'économie dont je vous ai parlé, il en faut maintenant près de 7. À son nouveau rythme, c'est donc le 5e jour que Lusitania aborde les eaux territoriales britanniques et par conséquent la zone de guerre. On approche des côtes d'Irlande et le commandant, il s'appelle le commandant Turner, a son visage des mauvais jours. Il a de bonnes raisons de se ronger les sangs, ce commandant. En effet, 2 heures plus tôt, il a reçu un message de l'amirauté britannique qui annonce la présence de sous-marins allemands au large du Fastnet. Le Fastnet, c'est un cap maritime irlandais. Or, la nouvelle est confirmée par un second message radio envoyé de Queenstown et qui dit ceci « Sous-marins en opération au large de la côte sud de l'Irlande ». En vérité, Turner est furieux. On lui avait promis qu'un croiseur de la Navy viendrait l'escorter à l'entrée de la zone de guerre. Or, il a beau se présenter à l'endroit indiqué, il a beau faire réduire l'allure au risque de faciliter la tâche au U-boat, il ne voit rien ni personne à l'horizon. Pendant ce temps, les messages, eux, continuent d'arriver. À défaut de mieux, Turner prend quelques mesures d'usage. Il fait débâcher les canaux de sauvetage sans aller jusqu'à les préparer. Il fait vérifier les brassières des passagers et du personnel. Il fait fermer de façon hermétique les hublots des ponts inférieurs. Il ordonne même des exercices d'alerte, uniquement pour le personnel. Évidemment, il n'est pas question d'inquiéter davantage les voyageurs. Ils le sont bien assez comme cela. Du reste, Turner s'est personnellement adressé à ses passagers. La harangue a eu lieu dans le grand salon des premières classes et l'on a vu ce vieux marin obligé de mentir pour la bonne cause. « Nous n'avons aucune raison particulière de nous inquiéter », a-t-il osé dire. Et aussi, « rassurez-vous, à l'entrée de la zone de guerre, vous serez en sécurité sous la sauvegarde de la Royal Navy ». En attendant, la plupart des passagers sont si bien rassurés qu'ils renoncent à leur cabine et qu'ils viennent se coucher tout habillés avec des couvertures de fortune sur les banquettes et les canapés des différents salons. Vendredi 7 mai, au petit matin, les passagers sont réveillés sur leur fauteuil par le bruit des cornes de brume. On va voir dehors, en fait, il y a un brouillard terrible. On a l'impression que le navire vogue littéralement sur un nuage. À la passerelle, on est très peu optimiste, inutile de vous le dire. Un message a été capté à l'aube contenant les conseils suivants. Prenez le pilote. Le pilote, c'est un gros remorqueur. Prenez le pilote à la barre de Liverpool, c'est-à-dire dans le canal Saint-Georges. Prenez le pilote à la barre de Liverpool et évitez les promontoires. Passez au large des ports à grande vitesse. Naviguez bien au milieu du chenal, sous-marin, au large du Fastnet. Et bien sûr, toujours pas de croiseur Juno en vue, de sorte que Lusitania avance tout seul, sans défense, au milieu de ces brumes que l'on sait truffées d'ennemis.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Heure par heure, Franck nous fait revivre cet après-midi sur Europe 1 le drame du paquebot britannique Lusitania.
Il est 11h25 ce 7 mai 1915. À bord du Lusitania, la radio continue de déverser ses mauvaises ondes, si j'ose dire. Sous-marin en action dans la partie sud du canal d'Irlande, que les bâtiments légers s'assurent que le Lusitania a bien reçu le message. Turner maintient une allure réduite, environ 15 nœuds. En effet, il ne veut pas prendre le risque de se trouver immobilisé au large du port, dans l'attente de la marée haute. Alors il a calculé qu'à cette vitesse, il franchirait la barre de Liverpool sur les coups de 4h30 du matin, ce qui est assez bien. À midi et quart, Lusitania fait cap sur la terre afin de prendre un repère sur le promontoire voisin de Old Head. Retenez ce nom, il va devenir célèbre. Nouveau message radio à 12h40, sous-marin aperçu à 5 milles au sud du Cap Clear. Ce que le commandant est loin d'imaginer, c'est qu'au même moment, dans le cadre admirable de la résidence royale de Kew Gardens, il est question justement de son navire. Or, les personnes qui en parlent ne sont pas les premiers venus. Il s'agit rien moins que du secrétaire au Foreign Office et du roi d'Angleterre en personne. En effet, ce 7 mai, les autorités britanniques reçoivent la visite officielle du colonel House, qui est le conseiller personnel du président Wilson à la Maison-Blanche. L'Américain rentre de Berlin, où il a fait accepter par les Allemands le projet élaboré par son administration de rétablir la liberté des mers, entendez la levée du blocus contre l'arrêt de la guerre sous-marine. Tout en marchant à ses côtés dans la roseraie, le ministre anglais des Affaires étrangères, Sir Edward Grey, surprend soudain son visiteur en lui posant tout à trac la question suivante. « Dites-moi, que ferait l'Amérique si un transatlantique transportant des citoyens américains venait à être coulé par un sous-marin allemand ?» Une demi-heure plus tard, la surprise du colonel House vire aux sueurs froides quand le roi George V lui-même, tout en faisant mine de ranger son bureau, lui demande l'air de rien. « Et alors, quelle serait l'attitude de votre gouvernement si le Lusitania était envoyé par le fond ?» Avouez que c'est tout de même un peu étrange, cette insistance. Ces questions très sérieuses, je précise bien, sont posées avant l'heure du drame. Vous connaissez la devise du sceau british Ordre de la Jarretière. On y soit qui mal y pense. À 14h15, très exactement, le Lusitania est au large de Old Head of Kinsale, sur la côte sud de l'Irlande. À bord, un passager qui vient d'observer des remous suspects demande négligemment « Ce n'est pas une torpille, ça, dites !» Près de l'étrave, un jeune matelot crie déjà « Torpille par tribord !» L'impact se produit juste à l'aplomb de la passerelle. Les passagers ressentent une secousse forte avec une détonation sourde. Plusieurs survivants évoqueront le bruit d'une porte qui claque sous l'effet du vent. Puis, quelques instants plus tard, une nouvelle explosion, plus forte que la première, projette de gros débris à travers plusieurs ponts. Le commandant Turner met à ce moment-là le cap sur la Terre. Seulement la deuxième explosion, vous savez, celle qui a été si puissante, provoque tout de suite une forte gîte à tribord avec un affaissement de la proue. La marche à suivre dans pareil cas, c'est de faire machine arrière toute. Seulement le navire allait sur son air et relancer tout de suite en arrière, c'est forcer à mort sur la machine. Les canalisations de vapeur ne le supportent pas, plusieurs éclatent et une fumée blanche envahit les ponts. Turner se ravise aussitôt, machine avant toute seulement là. Maintenant, ça répond mollement et très vite. Le bateau ne veut plus rien savoir, il est inerte et c'est fini. On commence à mettre à flot les premiers canaux. Seulement, la bande est très forte et les canaux du côté tribord pendent dans le vide à 3 ou 4 mètres du pont. Tandis qu'à bâbord, au contraire, ils frottent plutôt sur la carène et sont souvent détruits avant même d'atteindre la mer. À 700 mètres du naufrage, l'objectif d'un périscope observe le désastre. À la lunette, le capitaine de corvette Walter Schwieger, qui n'en croit pas ses yeux. Il n'a que 33 ans, le patron du sous-marin allemand. C'est un homme élégant, le prototype du grand allemand blond aux yeux bleus. Quand il a donné l'ordre de tirer sur ce vapeur, il était loin de penser que c'était Lusitania. En personne, si je puis dire. Maintenant qu'il réalise, ses sentiments hésitent entre l'orgueil et l'embarras. Tout en suivant au périscope l'affreux spectacle, il dicte ses commentaires au secrétaire de bord. Si vous voulez, je peux vous lire ces notes telles qu'elles nous sont parvenues. « Une grande confusion règne à bord, » dicte Schwieger. « On dégage les canaux et on en met une partie à l'eau. Au cours de cette opération, les gens de bord ont dû perdre la tête. À plusieurs reprises, les palans n'étant pas fixés également, les embarcations remplies de monde sont précipitées à la mer et coulent immédiatement. Et plus loin, ce fut la vision la plus atroce de ma vie. Je ne pouvais porter aucun secours. J'aurais pu sauver à peine une poignée de gens. » Le spectacle était vraiment trop affreux à voir. J'ai préféré plonger et m'éloigner. Il n'est même pas 14h30 quand l'étrave, c'est le nez si vous voulez du paquebot, heurte le fond à 100 mètres sous l'eau. C'est-à-dire qu'il a coulé tout de suite et très vite, rien à voir avec Titanic qui a mis 2 heures à couler. Maintenant, la moitié avant du navire est sous l'eau et tout l'arrière est soulevé à des dizaines de mètres pour les gens qui s'accrochent à la poupe. C'est atroce, d'autant plus que les hélices continuent de tourner à vide et broient les gens qui tombent ou qui sautent de ce côté. Je ne vais pas vous raconter le naufrage en détail, évidemment, juste une petite anecdote. Il se trouve que Alfred Vanderbilt, un jeune héritier américain très célèbre, ce Vanderbilt ne sait pas nager. Il se trouve que, se voyant condamné, Vanderbilt a couru vers la nurserie pour sauver les bébés, une trentaine auxquels personne n'avait pu venir en aide. Pendant de longues minutes, alors que le bateau s'enfonçait, on l'a vu attaché autour des couffins un certain nombre de brassières de sauvetage et au dernier moment, juste avant de couler lui-même avec l'épave, il va confier tous ses petits Moïse au second du bord, qui, des heures durant, tentera de les maintenir à flot. Malheureusement, les pleurs des nourrissons finiront par s'éteindre, peu à peu, jusqu'au dernier.
Faire.
Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Nous sommes toujours le 7 mai 1915, et ce que subit le paquebot Lusitania, Franck, est quelque part comme une forme de chronique de désastre annoncé.
Alors ce qu'il faut dire, Julia, c'est que les secours ont mis une éternité à venir. En ce mois de mai, l'eau n'est pas glaciale en fait, mais quand vous attendez pendant plus de 3 heures accroché à un bout de planche ou à une chaise à moitié coulée, il suffit que cette eau soit simplement froide pour finir par vous tuer. Je dis bien plus de 3 heures et j'hésite à vous en donner la raison, c'est que les autres navires, par peur des sous-marins, vont préférer garder leur distance. Au total, sur 1959 personnes embarquées, on relèvera 1198 morts. Dans le monde entier, la nouvelle du naufrage de Lusitania va semer la consternation, ou pas seulement en Angleterre. Je dis bien dans le monde entier, ce n'est qu'un cri d'indignation. La presse internationale explose de colère contre ce qu'elle considère comme un acte de barbarie. Un grand quotidien français titre « L'Allemagne est devenue folle ». Et pour être honnête, il faut bien dire que les Allemands eux-mêmes sont loin de pavoiser. À Berlin, le chancelier Bethmann-Hollweg connaît les heures les plus embarrassantes de son ministère. Au fond de lui, il est furieux. Ça faisait déjà plusieurs semaines qu'il mettait l'état-major en garde contre l'effet désastreux d'un événement de ce genre. Le Kaiser Guillaume II va plus loin. Dans un communiqué, il condamne sans détour le torpillage du Lusitania et adresse un blâme au capitaine Walter Schwieger. Il est cassé, ce pauvre Schwieger. Il se fera tuer en 1917 à bord de l'U-boat U-88. Mais en vérité, on peut dire que d'ores et déjà, il est un homme fini. Même si, sur Terre, la guerre fait rage, et même si elle cause chaque jour des milliers de morts, la presse internationale ressasse à l'envi des histoires incroyables de rescapés du Lusitania. On n'en finirait pas d'additionner les histoires extraordinaires, mais c'est le lot de tous les naufrages. Ce qui va rendre celui-ci tellement différent des autres, c'est qu'il entraîne des conséquences politiques considérables. Et bien ces conséquences, ce sont elles que nous allons tenter d'analyser en compagnie de mes invités d'aujourd'hui. Nos auditeurs connaissent bien André Caspi, le grand spécialiste des questions américaines, et on va voir à quel point cette affaire du Lusitania, de son torpillage, constitue au premier chef une affaire américaine. Bonjour André Caspi.
Bonjour.
Et j'ai le plaisir d'accueillir également Patrice Ordaz, qui est romancier, qui est également scénariste de bande dessinée. C'est-à-dire que vous avez écrit un roman qui est en train d'être adapté pour en faire une bande dessinée. Ça s'appelle Lusitania, l'Amérique ne pardonnera pas. Il s'agit bien, dès qu'on parle de cette affaire, il s'agit bien de la réaction américaine et de la réaction d'abord des plus hautes autorités. Alors nous avons vu que dans un premier temps, le torpillage en lui-même a suscité une émotion considérable, en Europe bien sûr, mais aussi et surtout, j'ai envie de dire, de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, l'opinion est bouleversée, André Caspi.
Là, évidemment, il s'agit de deux choses. D'une part, des populations civiles, plus de 1100 passagers sont morts dans ce torpillage. Et deuxièmement, parmi ces victimes, il y a 128 Américains. C'est-à-dire les Américains sont neutres en 1915. La guerre a éclaté quelques mois auparavant. Les États-Unis n'y participent pas. Et ils n'y participent pas pour plusieurs raisons. La première raison, tout d'abord, c'est que, aux yeux du gouvernement de Washington, les complexités de la diplomatie européenne sont telles que les États-Unis n'ont aucune envie d'intervenir en Europe. La deuxième raison, c'est que c'est une période de très très forte immigration. Et parmi les immigrants, les divisions sont également profondes. Les Irlandais détestent les Anglais, les Juifs américains qui sont nombreux à cette époque-là n'aiment pas beaucoup la Russie. Au contraire, les Allemands des États-Unis aiment beaucoup l'Allemagne. Donc un homme politique comme le président Woodrow Wilson ne tient pas du tout.
Il ne peut pas prendre la responsabilité de dresser une partie de l'opinion américaine contre une autre, en fait.
Il ne peut pas prendre la responsabilité d'engager son pays qui est aussi divisé dans ses composantes sociologiques. Les États-Unis revendiquent le droit d'être neutre et par conséquent de bénéficier de la liberté des mers et de commercer avec les belligérants.
Le président Wilson manifeste tout de suite son émotion. Il est scandalisé par ce qui se passe. Quelle est sa réaction réelle, profonde, en dehors de la communication?
Sa réaction profonde est évidemment une réaction d'horreur, puisqu'il y a un si grand nombre de morts. Et en même temps, c'est la volonté de protester contre cette action qui a été menée par le sous-marin allemand. Alors, il ne considère pas, bien entendu, que c'est l'Allemagne tout entière qui est responsable, mais il s'adresse aux Allemands précisément pour empêcher que les choses ne recommencent et, en fait, pour obtenir que ce droit des neutres soit respecté, que l'aventure, la mésaventure du Lusitania ne se reproduise pas.
Cette réaction du président, peut-on considérer qu'elle est déjà en partie politique? Est-ce qu'il a déjà à l'idée et à l'esprit qu'il faudrait engager davantage les États-Unis dans ce conflit? Et n'oublions pas que l'entrée des Américains en guerre, c'est beaucoup plus tard, hein, c'est au début de l'année 1917.
C'est en avril 1917. Ce que souhaite avant tout le président Wilson, c'est que l'Europe retrouve la paix de telle façon que les États-Unis ne soient pas projetés dans ce conflit qu'ils ne comprennent pas, dans lequel ils ne veulent pas entrer, et qui constitue véritablement un obstacle majeur aux droits des neutres et à la liberté de commerce sur les mers.
On peut se poser une question, c'est le rôle de l'Angleterre dans tout ça. Et on voit justement le colonel House reçu par le roi d'Angleterre à Kew Gardens et qui est stupéfait de voir l'attitude du souverain lui-même, de son secrétaire au Foreign Office, qui tous deux ont l'air, bien avant le torpillage lui-même du Lusitania, ont l'air de considérer ça comme une hypothèse tout à fait plausible. Nous y revenons dans un instant et nous allons essayer de voir ce qui se cache peut-être derrière ce naufrage.
Jusqu'à 14h sur Europe 1.
Plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand.
Et je vous rappelle que nous évoquons aujourd'hui sur Europe 1 le naufrage de Lusitania avec vous, Franck, et vos invités.
En compagnie d'André Caspi et de Patrice Ordas, nous revenons sur cet événement qui a eu lieu il y a 96 ans, presque 97 ans, presque jour pour jour, hein, donc à la fin du mois de mai 1915. Un événement terrible, le torpillage d'un paquebot civil qui emportait près de 2000 passagers, plus de 1100 sont morts dans le naufrage. C'était une simple torpille allemande qui s'attaque comme ça à un paquebot. Alors nous allons voir tout à l'heure pourquoi le paquebot a coulé si vite et pourquoi les dégâts ont eu une telle importance. Revenons tout de suite sur, j'ai envie de dire, sur la thèse du complot. C'est bien ainsi qu'il faut appeler cette thèse, Patrice Ordas, qui consiste à dire que les Anglais, dans cette affaire, auraient un petit peu forcé le sort et auraient trouvé utile qu'un navire sur lequel voyageaient tant de citoyens américains soit coulé par des Allemands. Ça pouvait faire pencher l'opinion américaine.
Ça pouvait faire pencher l'opinion américaine. Il ne faut pas perdre de vue que le président Wilson, vous m'arrêtez si je dis des bêtises, mais jouait sa réélection sur la non-entrée en guerre des États-Unis en tant que belligérant. Néanmoins, il est certain que la guerre sous-marine à outrance qu'avait déclarée l'Allemagne aux belligérants, justement, mettait en danger les voies commerciales entre les États-Unis et l'Europe. Et qu'une partie de l'industrie américaine servait les nations en conflit. C'est une certitude. La plupart des munitions qui étaient transportées par le Lusitania, parce que ça c'est un fait absolument incontestable depuis 1972, on sait que des munitions avaient été transférées du Queen Mary sur le Lusitania juste avant le départ. Le nom du Lusitania avait été maculé de goudron à la poupe du bateau, et que donc, dans le périscope du capitaine Schwieger, l'identité du paquebot n'était pas lisible. Mais il savait pertinemment qu'il allait croiser la route du Lusitania. Il ne lui restait que deux torpilles, les plus anciennes, c'est-à-dire torpilles de bronze à tête de cuivre, et Schwieger était persuadé que la seule torpille qu'il pouvait tirer serait insuffisante pour couler le bateau. Provoquer une avarie pour l'immobiliser, certainement, le couler, il ne l'imaginait absolument pas. S'il n'y avait pas eu cette deuxième explosion, qui est, nous l'avons supposé, due justement à la charge d'explosifs contenue par le bateau, le Lusitania sera resté à flot, certainement. Malgré...
Il y a bien eu, c'est pour ça, il faut insister là-dessus, il y a bien eu deux explosions. Et il y a eu d'une part le choc de la torpille allemande elle-même qui explose contre le Lusitania même, et puis quelques instants plus tard, il y a cette deuxième explosion énorme, beaucoup plus forte, qui prouve bien que ce sont les explosifs embarqués à bord qui, eux, se mettent à exploser.
Absolument.
Donc c'est un peu comme si on avait fabriqué une sorte de bombe et que sur cette bombe on avait embarqué une grande quantité de passagers. Alors je vois André Caspi qui fait la moue.
Je fais la moue, c'est-à-dire que je ne suis pas tout à fait persuadé qu'il y ait eu un complot. D'abord en ce qui concerne les Britanniques, ils dominent littéralement les mers. C'est-à-dire que dans cette affaire, ils sont certains de pouvoir aller chercher les marchandises américaines. Ils y tiennent, vous avez tout à fait raison. Il est possible, évidemment, qu'ils songent à faire entrer les États-Unis dans la guerre. Ça ne leur apporterait pas grand-chose, puisque les forces militaires des États-Unis sont relativement limitées. En ce qui concerne l'Allemagne, vous avez indiqué tout à l'heure les réactions et du chancelier Bethmann-Hollweg et du Kaiser. C'est-à-dire qu'au fond, l'Allemagne ne tient pas du tout
bien ennuyé dans
à ce
cette
que
histoire,
les États-Unis entrent en guerre.
Évidemment.
Mais il s'agit simplement de définir une zone autour des îles britanniques qui serait interdite pour le commerce avec la Grande-Bretagne. C'est ça la position allemande. Et par conséquent, le fait que le Lusitania pénètre dans cette zone entraîne le danger que le Lusitania court. Mais les Allemands ne souhaitent pas que le Lusitania coule. Le Lusitania, au fond, il coule par erreur, parce que le sous-marin allemand tire sans très bien savoir sur quoi il tire. Et le pauvre commandant du sous-marin qui sera par la suite sanctionné n'est pas du tout un héros pour Berlin. C'est au contraire un provocateur qui rate son coup et qui entraîne l'Allemagne dans une difficulté toute particulière puisqu'il faudra ensuite gérer la réaction des États-Unis.
Pourquoi est-ce que le Lusitania circule de façon anonyme? Pourquoi est-ce qu'on a caché son nom?
On l'ignore. Ce qui est certain, c'est que le nom du Lusitania a été maculé, ça il y a plusieurs passagers qui l'ont confirmé, maculé de goudron, et Schwieger lui-même l'avait remarqué.
Alors ce Schwieger,
vous dites qu'il a été écarté, Schwieger. Il a quand même été nommé chevalier dans l'ordre pour le mérite, qui est la distinction la plus élevée de l'armée allemande. Il a figuré au tableau, il était 8e dans l'ordre des commandants de bateaux, donc il a été considéré comme un héros. Mais par contre, on n'a pas indiqué le Lusitania dans le tonnage des bateaux qu'il réputait avoir coulé. Mais il est certain qu'il n'était pas de l'intérêt des Britanniques de couler le Lusitania.
Les Allemands.
Non, mais même des Britanniques. Justement, le complot que l'on évoquait tout à l'heure, ça n'était pas dans leur intérêt, puisque le premier lord de l'amirauté, c'était Sir Winston Churchill, que Churchill projetait l'expédition des Dardanelles, qu'il avait besoin de munitions, et que ces munitions, précisément, enfin une partie d'entre elles, étaient à bord du Lusitania. Donc je ne vois pas pourquoi il aurait sabordé son propre projet. Par contre, qu'il y ait eu un excès de zèle de la part d'officines occultes du MI5 en Angleterre.
C'est-à-dire les services spéciaux britanniques.
Voilà. Donc le MI5, il est très possible, parce qu'dans tous les services, il y a des ganaches ou des gens qui font des excès de zèle, et monter une opération sans tenir compte de la politique générale du gouvernement.
Donc, si je résume, vous me dites que ni les Américains, ni les Britanniques, ni les Allemands au plus haut niveau n'avaient intérêt à ce torpillage et à ce naufrage et à cette catastrophe humaine, qui évidemment ne servait aucun des intérêts de ces différents belligérants, mais qu'en revanche, à des échelons nettement plus modestes, un certain nombre de personnes auraient pu souhaiter faire du zèle.
C'est ce que le romancier a imaginé.
Maintenant, c'est du côté anglais.
Voilà, du côté anglais. Du côté anglais.
Parce que du côté américain, il n'y a aucune
zèle.
Et du côté allemand, je ne crois pas non plus.
Et les Anglais sont rompus à l'espionnage quasiment depuis le Moyen-Âge.
C'est la perfide Albion.
Oui. ils ont en tout cas une technique et une habitude redoutable dans ces domaines. Ça, c'est très clair.
Et comment expliquer alors les questions, il faut dire un peu étranges, que le roi lui-même et le ministre des Affaires étrangères britannique pose à l'émissaire du président des États-Unis.
À l'intérieur de ces services, il pouvait parfaitement y avoir soupçon du montage d'un dossier en cours, et il était tellement avancé qu'on pouvait s'inquiéter des résultats de l'opération, sans toutefois l'approuver, ni même l'avoir commandité.
Alors ça, c'est pour la vision générale de l'opération. Maintenant, on se pose un certain nombre de questions, dont la plupart restent en suspens. Je vous propose au moins que nous les posions, ces questions.
Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Jusqu'à 14h, focus sur l'affaire de Lusitania sur Europe 1. Nous vous retrouvons, Franck, avec vos invités du jour. Patrice Ordas, qui est romancier, et André Gaspi, qui est historien.
Un certain nombre de questions restent en suspens à propos du torpillage du Lusitania. Nous sommes donc au printemps 1915. Que s'est-il passé et pourquoi, surtout? Alors d'abord, André Gaspi, ce qu'on se demande, c'est pourquoi un navire comme celui-ci, qui donc est un paquebot transportant des civils, pourquoi avait-il des cales chargées de munitions et notamment d'explosifs, ce qui est encore plus grave?
Oui. Bah écoutez, moi je suis dans l'incapacité de vous répondre d'une manière certaine. Ce que je peux vous dire simplement, c'est que vraisemblablement, les marchands d'armes et les gouvernements alliés profitaient de la possibilité de transporter des armes, y compris sur des navires civils, peut-être avec l'espoir insensé dans ce cas que ces navires civils échapperaient au contrôle des Allemands. Mais il est évident que ça n'était pas limité aux navires civils.
Donc ça, c'est exactement la logique inverse de celle à laquelle nous faisions référence il y a un instant, c'est-à-dire qu'il ne s'agirait pas de transformer un navire civil en bombe humaine, en quelque sorte, pour créer l'émotion de la planète et pour modifier le cours de la politique internationale.
Ça, c'est une provocation. Là.
Voilà, ça, c'est la provocation. Là, il s'agirait tout au contraire de charger des explosifs et des munitions à bord d'un navire civil pour, en se disant que les sous-marins allemands épargneraient plus volontiers un navire civil.
Exactement.
Et surtout de cette taille-là.
Exactement.
Fait. Ça vous paraît, plausible,
tout,
ça, Patrice Sordas?
Tout à fait plausible. D'autant qu'un certain nombre de composants d'explosifs voyageaient sous un autre nom. Il y avait par exemple de la bourre de balles de coton qui était fournie par la société Babcock à New York et qui est un composant essentiel des explosifs de munitions militaires.
Une autre question, ce croiseur Juno qui devait être là pour accueillir Lusitania à son arrivée dans les eaux territoriales britanniques, et on ne le voit jamais arriver, les Larlésiens. Comment expliquer ça?
Par contre, Schwieger affirme, lui, l'avoir vu...
Schwieger, donc, qui est le
capitaine-lieutenant Schwieger, oui, qui est le commandant du Luvin, affirme avoir vu le Juno virer de bord. Il a vu passer le
C'est
Juno.
Encore pire. C'est-à-dire que non seulement il n'aurait pas été là pour aider Lusitania, mais il aurait même fait demi-tour.
Il a été dérouté. Alors, par qui? Ça ne peut venir que de l'amirauté britannique. Mais comme ça ne vient pas de Churchill, parce qu'on ne voit vraiment pas quel serait l'intérêt de l'amirauté britannique dans l'affaire, ça ne peut venir que des strates inférieures des services secrets. Vous savez, il y a eu quand même beaucoup de boulettes, même très récentes et commises par le SDEC ou la DST. Il y a eu suffisamment d'illustrations de ce genre de bêtises. Et on est tout à fait à même de supposer que c'est une wet stuff, c'est une affaire pourrie qui échappe un petit peu aux autorités.
Est-ce que ça veut dire qu'à l'heure où nous parlons, cette affaire n'est pas encore résolue? C'est une énigme
Vous savez, le grand avantage des historiens, c'est que leur travail n'est jamais terminé. Vous le savez comme moi. Ça veut donc dire que tant qu'on n'a pas la certitude que toutes les archives, que tous les témoignages ont été rassemblés, il y a encore possibilité pour toutes sortes d'hypothèses. Disons que pour l'essentiel, malgré tout, on sait de quoi il retourne et on sait ce qu'a été l'affaire de Lusitania. Mais je n'exclus pas que dans les mois qui viennent ou dans les années qui viennent, on fasse des révélations qui soient particulièrement spectaculaires.
On va peut-être trouver des choses.
Oui, mais l'amirauté britannique n'a admis la présence de munitions à bord du Lusitania qu'en 1972. C'est quand même très tardif. Et la dernière passagère survivante du Lusitania est morte en 2011.
Alors justement,
elle avait 3 mois au moment de...
Donc son témoignage est un peu léger.
Un peu sujet à caution.
Est-ce qu'on peut dire, André Caspi, que le naufrage du Lusitania aura compté dans la décision des États-Unis d'entrer en guerre, encore une fois, beaucoup plus tard, hein, en avril 1917?
Oui et non. Oui, parce que le secrétaire d'État de l'époque, qui était William Jennings Bryan, était très favorable au maintien de la neutralité. Et à la suite des 2 notes que le président Wilson a envoyées à Berlin... Bryan a estimé que les États-Unis prenaient une route dangereuse. Il a démissionné et c'est son second qui est devenu le secrétaire d'État, Robert Lansing, qui lui est beaucoup plus favorable à une attitude ferme à l'égard de l'Allemagne. Non, parce que, comme on l'a rappelé tout à l'heure, en 1916, c'est-à-dire au moment de la campagne électorale pour la présidence, Wilson, qui cherche un second mandat, insiste sur le fait que, jusqu'à maintenant, les États-Unis sont restés en dehors de la guerre. C'est-à-dire qu'il donne comme programme le maintien de la neutralité et l'entrée en guerre qui se fera dans les tout premiers mois de 1917 s'explique précisément par la guerre sous-marine à outrance, c'est-à-dire que les Allemands, cette fois-ci, ne limitent pas leurs interventions aux alentours, aux environs des îles britanniques, mais c'est tout l'océan Atlantique qui est directement menacé, et par conséquent, c'est le droit des neutres, qui est bafoué. Alors à ce moment-là, même si Wilson, réélu, ne peut plus dire qu'il maintient le droit des neutres, il est évident que son action sera d'intervenir dans le conflit européen. Mais vous voyez que le Lusitania, c'est quand même un moment important dans la réflexion que les Américains se font sur la nature du conflit européen.
Je crois que nous aurons bien compris ça. Merci infiniment, André Caspi. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Les présidents américains de Washington à Obama. C'était avec Hélène Arter. C'est publié chez Talendier, sorti là au début de l'année. Et puis, merci Patrice Ordas, votre roman Lusitania, l'Amérique ne pardonnera pas, vient d'être publié par Grand Angle, là, il y a quelques semaines.
C'est ça.
Ça vient de sortir. Et on aura bientôt la bande dessinée.
Absolument,
dans
en 2013.
Dans la foulée de ce livre. Merci à vous deux.
Merci.